Phil PM. La voie est libre.
Il n'y a pas de normes pan-canadiennes, là. Bon, après combien de temps il est correct de libérer un failli après sa troisième ou sa quatrième faillite? C'est appliqué de façon extrêmement variable à travers le pays. Et on est bien obligé de constater que le Québec, les registraires québécois sont pas particulièrement sévères.
Voici Luc Lavoie.
Alors, c'était Katia Gagnon, donc journaliste à la presse, qui nous parlait de cette enquête que le journal publie aujourd'hui. Luc Lavoie, bonjour.
Salut, Bernard.
Oh, que j'ai hâte de t'entendre sur la faillite. Laisse-moi d'abord saluer les gens de la Mauricie et du Centre du Québec qui nous écoutent sur le 106.9 à partir de maintenant. Comment tu as réagi à ce dossier de la presse, toi?
Avec peu d'étonnement. Parce que j'ai été témoin il y a peu de temps de quelqu'un relié à la famille, qui avait des problèmes financiers, puis qui avait décidé, m'a-t-il informé, d'avoir recours à la faillite.
Oui.
Alors, moi, je me suis dit, ça va être compliqué, cette affaire-là. Ben non, ils vont dans des... je pense que c'était un cabinet d'avocats spécialisé dans ça.
Ou un comment ils appellent les cabinets de syndic de faillite?
En tout cas, il est allé là. Et puis, il était en faillite comme quelques jours après. Puis il y avait comme 8 mois, je pense, où il fallait qu'il rembourse un peu. Puis après, c'était tout. Écoute, c'était tellement facile que j'ai été un peu surpris. Des gens qui ont fait 2 faillites, j'en ai personnellement connu. Des gens qui vivaient bien puis qui faisaient une assez belle vie. Les affaires rendues, par exemple, à la 4e puis la 5e faillite, je me demande comment ça se fait que la loi permet ça. Il y a un moment donné, c'est assez.
Puis là, faut rappeler, le Québec... Au cours des 10 dernières années, le Québec représente 43 % des cas de 2e faillite au Canada, 58 % des cas de 3e faillite, 74 % des cas de 4e faillite et la quasi-totalité des cas de 5e faillite, c'est des cas québécois. Hein? La société distincte.
Hein? La société, on est distinct, Bernard. Nous autres, on n'est pas regardant sur la faillite. Mais je sais pas toi, Bernard, moi, quand j'ai grandi, là, puis dans ma jeunesse, puis tout ça, quand quelqu'un faisait faillite, là, c'était honteux. Là,
c'était la honte.
Puis la personne ne sortait plus, puis je me reporte même encore un peu plus loin. Elle se faisait pas trop voir à l'église le dimanche, puis tout le monde les pointait du doigt. Souvent, d'ailleurs, c'était une autre époque où... je sais pas, mais ta faillite faisait que tu avais des créanciers qui étaient ton troisième voisin, puis ton beau-frère, puis des affaires comme ça. De nos jours, les gens se balancent totalement qu'on leur dise, ben là, tu dois de l'argent à je sais pas quelle entité, là, puis...
Mais là, ce qu'on apprend dans l'enquête de la presse, c'est que souvent... Le créancier principal, c'est le fisc, c'est-à-dire Revenu Québec ou Revenu Canada. Dans presque tous les cas de faillite là, de la famille Bélanger-Fournier,
c'est
le fisc. Mais écoute, c'est quand même quelque chose. Eux autres, là, les Bélanger-Fournier, ils ont fait 8 faillites à 3, 6 faillites personnelles, puis 2 faillites d'entreprise. Écoute, c'est des millions et des millions de dollars qu'ils devaient au fisc. En fait, c'est plus de 10 millions de dollars de dettes à Revenu Québec et à Revenu Canada qu'ils devaient à travers les 6 faillites personnelles puis les 2 faillites d'entreprise. Écoute, 10 millions de dettes, mon chum, qui sont effacées.
10 millions de dettes au fisc?
Oui, au fisc, sans parler du reste. Là.
Alors, là-dessus, c'est une autre affaire. Moi, je connais beaucoup de gens. Puis des fois, j'ai tendance, mais bien que je suis très strict avec ces affaires-là, à me dire, écoute, si je suis capable d'éviter de payer de l'impôt là et là, tant mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis loin de dire que c'est correct, mais ce que je veux dire, c'est qu'il doit y avoir énormément de gens qui disent, « Non, c'est payé d'impôt. Tiens! » Il doit avoir beaucoup de...
Tiens quoi? Tiens, je me mets en faillite?
Ben oui. Mais tiens, je sais pas, moi, c'est rendu tellement courant. Tu l'as vu dans cet article-là, d'ailleurs. Tout un travail de journalisme d'enquête, cette histoire-là. Mais... La loi est trop permissive, mais d'un autre côté, pourquoi ces lois-là ont-elles été créées et renforcées? Ça remonte aux années 30, lors de la grande, grande crise. Alors, tu disais, écoute, ils se sont fait laver par des banques qui sont disparues, puis là, ces gens...
Où il a perdu son emploi, puis c'est pas de sa faute, fait qu'on va lui donner une deuxième chance.
Il y a ça, puis également le fait que des institutions financières disparues, des épargnes envolées. Alors, dans les années 30, tu disais, écoute, j'ai le choix de faire ça... ou alors je vais me retrouver avec un peuple de miséreux total.
Oui, oui.
Et c'est comme ça que ça a été créé. Puis l'équivalent pour les entreprises, tu dis, écoute, s'il y a moyen de sauver l'activité économique, on va le faire. Alors c'est pour ça, c'est dans ce contexte-là que ces lois-là ont été écrites. Maintenant, je ne sais pas si elles sont pas trop permissives.
Bien, c'est ça. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Moi, je voulais te demander, dans le fond, tu sais, il y a quelqu'un qui nous écrit, là, et dit « Honneur, courage et parole données sont des valeurs du siècle dernier. Il n'y a plus de conséquences. » Puis c'est quoi? Luc, je pense qu'il y a du vrai là-dedans.
Oui, il y a du vrai là-dedans.
Tu sais, je suis pas en train de dire que pour tous ceux et celles qui nous écoutent là, l'honneur, puis la parole donnée, puis la réputation, puis la volonté surtout de pas faire faillite, je suis pas en train de dire que pour les gens qui nous écoutent, c'est pas important. Là. Ben non. La majorité veulent pas faire faillite.
Il y a beaucoup de gens qui face au gouvernement, tout ça se dit, je leur dois de l'argent, ça fait pas partie de la parole d'honneur. Tu comprends? Il y a des gens qui disent « j'en paye assez d'impôts, j'en ai assez payé d'impôts, il en gaspille assez de l'argent, le gouvernement. » Puis la corruption, puis ceci, puis cela, puis ceci, puis cela.
D'accord, Luc, mais ce que ça me dit, c'est que si tu choisis de faire faillite parce que tu veux pas payer l'impôt que tu dois à l'impôt, c'est que ça n'a plus de conséquences. Parce que si ça avait une véritable conséquence, tu dirais « garde, ça m'écœure, ça m'écœure d'être obligé de payer le gouvernement, mais le prix que je vais payer en réputation... » est tellement élevé, je vais tellement perdre...
Mais il n'y en a pas de prix à la réputation.
Mais c'est ça, c'est ce que ça me dit, moi, c'est que la hausse... Écoute, j'ai lésé les chiffres ici, là. Les faillites au Canada, 2011 à 2018, tu as eu 86 000 deuxièmes faillites, dont 43 % au Québec, 37 000. Après ça, des troisièmes faillites, tu en as eu presque, ben, mettons, 9 300 au Canada. T'en as eu plus que la moitié au Québec. Ce que je veux dire par là, c'est que les chiffres sont quand même astronomiques, là.
Les chiffres sont astronomiques, mais souvenons-nous, et tu l'as souligné au début de notre conversation, c'est souvent le principal créancier, c'est le ministère du Revenu du Québec ou du Canada. Alors, est-ce que ça n'a pas quelque chose à voir avec le fait qu'on se fait constamment dire « Vous êtes la juridiction la plus taxée en Amérique du Nord ». Bon, le gouvernement a perdu de l'argent dans ci, dans ça. Telle et telle affaire.
Tu penses que ça incite les Québécois à déclarer faillite?
Pas à déclarer faillite. On parlait de ce côté honneur, dette d'honneur. Ils se disent, je ne mets pas d'honneur face à eux autres.
Oui, mais moi, il m'a dit, franchement, c'est pas l'honneur face au gouvernement qui m'inquiète. C'est l'honneur, point, par rapport aux autres, par rapport aux membres de ta famille, par rapport à tes amis, par rapport à tes collègues de travail. Toi, là, mettons, on jase, OK? Puis il faut pas oublier, là, il y a un paquet de monde qui nous écoute qui sont passés par la faillite, là. Tu sais, fait qu'il faut faire attention.
Oui, puis c'est pour ça, d'ailleurs, avant que tu ailles plus loin, que je disais, il n'y a pas ben de gouvernement qui vont toucher à ça.
Mais puis j'ajouterais ceci. Il y a des gens qui sont passés par la faillite, Luc, qui l'ont pas choisi. Qui n'ont pas fait preuve de négligence, qui n'ont pas été des mauvais planificateurs de leurs finances personnelles. Il y en a là-dedans que c'est carrément la malchance, là, qui ont perdu leur travail ou qui ont été victimes de la maladie.
Et ils ont sauvé leur ménage comme ça, là, leur famille.
Et voilà. Alors, donc, gardons-nous de jeter la première, puis la deuxième, puis la troisième pierre.
Non, c'est pas mal faire faillite. Il n'y a pas de mal dans ça.
Ben, c'est-à-dire. Quand ça devient trop facile, il faut se poser la question.
Ah, ça, je suis d'accord avec toi, mais en principe, ce n'est pas rien de mal.
En principe. Mais quand ça fait deux, puis trois, puis quatre, puis cinq fois que tu fais faillite...
Là, ça commence à devenir une habitude, hein? Mettons que tu as 35 ans de vie active, disons 40 ans de vie active, puis tu fais cinq fois faillite. Tu traverses même pas une décennie, tu comprends?
Puis c'est pour ça que je vais vous poser la question dans un instant. Est-ce que la faillite est devenue trop facile? On va prendre des appels, Luc et moi, 790-9850, ou encore 98985, ou encore Drainville à commercial 985fm.ca.
Mais si je peux me permettre, Bernard, qu'on leur demande aussi à nos auditeurs, avez-vous connu cette expérience-là?
Est-ce que c'est
traumatisant?
Est-ce que vous en avez gardé, effectivement, une honte, ou est-ce que pour vous, ça a été une libération? Parce que moi, je suis convaincu qu'on va en avoir. Des gens qui vont dire, si ça n'avait pas été de ça, je suis pas sûr que j'aurais eu la force de continuer.
Ah ben, ils ont raison, en plus. Ils ont raison. Pas tous, mais il y en a qui ont raison.
Tout à fait. Alors, 790-9850, dès qu'on aura des bons appels, on va les prendre. 98985 par texto, il y en a déjà qui m'écrivent. Tu vois, il y en a un qui me dit restreindre la faillite. C'est quoi l'option après? Se faire saisir puis être à la rue?
C'est exactement ça la question qui se pose. se faire saisir ses meubles, sa voiture, tous ses actifs, tous ses avoirs, pas tous ses avoirs. Puis t'as trois enfants à la maison à nourrir, puis c'est pas drôle. On est à la rue. C'est ça, la vérité.
OK, on me dit que les lignes sont pleines. Luc, on va prendre nos premiers appels. On va aller à la pause, Luc, puis on va se faire un long bloc d'appels au retour. Voilà, OK? 790-9850-9850 985 par texto. Reste avec nous 2 minutes.
Drainville PM. La voie est libre.
Vraiment, il faut que le système de faillite au Canada continue à être quelque chose de relativement clément pour cette personne, comme tu dis, qui est malchanceuse, mais honnête. Elle, là, faut pas la pénaliser.
Voici Luc Lavoie.
Alors, on a plusieurs appels et plusieurs textos aussi. Quelqu'un écrit, Luc, « Quand j'étais tout jeune, mon oncle fait faillite. C'était un pestiféré, une honte, montré du doigt. Mais aujourd'hui, il n'y a rien là, c'est devenu trop facile. » Un autre me dit « On est tellement surtaxé au Québec, ça m'étonne même pas qu'il y ait autant de faillites. Quand tu payes plus de 700$ sur un relevé de paye qui devrait être 2000$ brut, il y a un méchant problème. » C'est Stéphanie qui nous appelle d'abord. Bonjour Stéphanie.
Oui, allô.
Bonjour.
Dans le fond, moi, ce que je voulais dire, c'est que je comprends que le faire faillite, c'est facile. Mais j'ai fait faillite, moi, quand j'avais 22 ans, 23 ans. Mm-hmm. Maintenant, j'ai presque 30 ans. Puis, je trouve que le problème, c'est pas la faillite, mais c'est qu'on n'a pas d'éducation financière. Parce que moi, j'ai fait faillite, mais après, je me suis réendettée. Ça a été facile pour moi de ravoir 2 cartes de crédit, mm-hmm. Même avec une faillite à mon dossier. Ce qui était difficile, c'est de me trouver un logement, qui est la base. Là, je n'ai pas le choix d'avoir un logement, mais une carte de crédit, j'avais des offres tout le temps. J'ai même été capable d'avoir une carte de crédit à 8 500 $, même avant, avec une faillite. Mmh. Fait que je pense que le problème, c'est l'éducation. T'sais, moi, je suis sortie de l'école, je savais pas quelle portion de mon budget devait aller à mon loyer, comment mettre de l'argent de côté, c'est quoi un fonds d'urgence. C'est tous ces trucs-là, on le sait pas, on nous l'enseigne pas, t'sais, mais on est capable d'avoir une carte de crédit en claquant des doigts en allant au Canadian Tire, tu sais.
Je peux-tu vous demander, Stéphanie, avez-vous payé un prix pour la faillite? Est-ce qu'il y a un prix à payer pour la faillite?
Oui, bien moi, en fait, j'ai fait faillite quand j'étais en voyage dans l'Ouest canadien, en Alberta, puis ça me coûtait 80 $ par mois pendant 9 mois.
Ben, c'est la même chose que j'ai connue ici au Québec, ce dont je parlais tantôt, oui.
Fait qu'après, c'est ça, après 9 mois, dans le fond, à tous les mois, je remplissais un budget, là, à peu près, puis je le renvoyais, ça coûtait 80 $. Puis ensuite, de ça, après 9 mois, ben c'était terminé, je vivais ma vie, puis...
OK, mais aujourd'hui, est-ce que ça vous arrive de vivre avec les conséquences de votre faillite ou il n'y a jamais personne qui vous en parle?
Non, encore aujourd'hui, parce que pour, mettons, une enquête de crédit, ben la faillite est encore à mon dossier. Fait que pour aller louer un logement ou des trucs comme ça, c'est plus difficile. Surtout que moi, je suis entrepreneur, fait que ça me met encore plus difficile parce que je suis à mon compte. Fait qu'après, aller justifier au propriétaire que je suis capable de payer mon logement en étant entrepreneur, mais en ayant déjà fait une faillite.
Parce que vous n'avez pas de paye hebdomadaire, c'est ça?
Non, c'est ça.
D'accord. Merci pour l'appel, merci. Stéphanie. Jean, bonjour.
Oui, allô?
Oui, bonjour.
On vous écoute. Oui.
Bon, ben écoutez, c'est un petit peu ce que tu disais, Bernard, dans les textos que tu lisais. À un moment donné, c'est tellement facile. C'est une business, hein? Les gens prennent un risque, hein? La banque te prête pour une maison, tu as un emploi, tu perds ton emploi, il arrive peu importe, des divorces. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Il y a des enfants là-dedans. Je pense qu'on n'a pas à... Puis, à la fin du compte, là, je serais curieux de savoir c'est quoi les pertes. Ça doit pas être grand-chose, là, au niveau du gouvernement, à la fin de la run, là.
Je pense comme vous, ça ne doit pas être si énorme que ça, non?
Non, on ne peut pas mettre les gens dans la rue. Moi, à quelque part, là, comme c'était avant, là, avant que ça existe, la loi de la faillite, c'est comme si tu donnais un cancer financier à la personne. Il était décompté. Tu ne peux plus rien faire, tu pouvais être emprunté, tu es obligé de mendier, tu es obligé de demander à charité. Ça avait une tâche, là, mais comme s'il y avait la lèpre.
Vous avez raison, c'est pour ça que ces lois-là ont été adoptées.
Absolument. Les pertes, Jean, là, au cours des 5 dernières années, dit l'enquête de la presse, Revenu Québec a effacé pour 2 milliards de dollars de mauvaises créances. Ça, c'est contribuables et entreprises qui ont fait faillite. Du côté du fédéral, c'est 4 milliards de créances qui ont été radiées. Moi, je trouve que c'est
vraiment
important.
Oui, mais Bernard, monsieur, je le prends en témoin, il faut faire une différence entre la faillite d'une entreprise et la faillite d'un individu. c'est pas du tout la même chose.
Non, je suis d'accord.
Oui.
D'accord.
Et puis ce qu'on peut faire aussi.
Mais les montants sont quand même importants.
Non, mais c'est peut-être de mettre les banques aussi imputables de quelque chose. Pas la personne autant que celui qui prête. Il y a des gens, écoutez, les banques sont debout, là, puis ils font des milliards à chaque année, là. Puis ils prennent des risques, puis ils sont dans les faillites, puis ils sont toutes. Si le gouvernement ne veut pas embarquer dans le pattern de ça, ben, c'est de charger les banques, peut-être. Il y a peut-être quelque chose à faire. Mais il faudrait laisser les gens, à un moment donné, libres de respirer, là, parce que ça n'a pas de sens. Quand la moitié de ta paye, tu la donnes en impôts, quand tu es taxé à du 15% et plus à peu près partout, quand tu te rends compte que tu travailles pour 25 cents dans le dollar,
à un moment donné, tu te décourages, puis c'est fini que tu as moins de respect pour ces collecteurs de fonds-là.
Oui, puis t'encourages de travailler au noir, puis t'encourages toutes ces choses-là. Ça marche plus, le moment donné.
Avez-vous déjà fait faillite, Jean?
Oui, absolument. Moi, ça m'est arrivé. Moi, ça a été... j'ai fait une faillite personnelle suite à ce que j'étais en affaires. Et j'étais un homme qui venait à peu près d'attraper la trentaine. Puis... ça a été salutaire. Écoutez, j'en ai bénéficié, veux pas. Puis j'ai refait mon crédit, puis depuis ce temps-là, écoutez, ça fait une vingtaine d'années, puis j'avais même pas idée comment c'est facile d'avoir du crédit, puis sauf que moi, c'était une bad luck d'affaires qui m'a amené à faire une faillite personnelle. J'ai risqué, et ça a pas marché la première fois. Puis la deuxième fois, ça a marché très, très bien, puis...
Mais ça pour moi, dire, tu vois, ça, j'ai pas de problème avec ce genre-là. Moi, pour moi, là, ce que vous me décrivez, c'est-à-dire un entrepreneur qui a tenté sa chance, qui a pris un risque et puis qui s'est planté, et la loi sa faillite vous aide à vous, dans le fond, à retomber sur vos deux pieds. Vous vous êtes relancé, puis là, ce que vous nous dites, c'est que ça va bien. Ben ça.
Absolument. Mais je suis d'accord quand on parle de 5 fois, 6 fois. Là, il pourrait avoir une alarme qui sonne, mais il me semble que c'est compliqué. Quand deuxième faillite, c'est pas aussi facile que la première, puis la troisième doit pas être plus facile que la deuxième. Là.
Je pense pas, monsieur. Je pense que c'est facile, vous avez pas idée. C'est aussi facile que ce que la jeune dame nous décrivait tantôt, puis elle parlait d'une première faillite, puis deuxième, troisième, ça revient
Katia
tout au même.
Katia Gagnon, Jean disait tout à l'heure, la journaliste disait, selon l'enquête qu'ils ont fait, plus t'en as, plus c'est facile. C'est les témoignages qu'ils ont recueillis de ceux qui ont fait plusieurs faillites. Ça semble démontrer que la troisième est plus facile que la deuxième, puis la quatrième est plus facile que la troisième. Ça, admettons, Jean, que ça marche pas, là.
Non, c'est peut-être là qu'il faudrait qu'il y ait un correctif, là, qu'à un moment donné, tu sais, là, qu'il faut que ça arrête, là. Ça peut pas faire des faillites à tous les années.
Répétition. Exact,
mais je veux dire, il faut pas non plus attaquer. Il y a du pauvre monde qui sont malchanceux. Il y a des gens qui essayent. Faut pas empêcher les gens d'essayer non plus. Des fois, c'est une question de, mettons un exemple, la mienne, c'était une question de timing. Si j'avais fait ce move-là 2 ans plus tard, j'aurais réussi. J'ai été trop en avant de mon temps et j'avais pas les reins assez solides. Mais encore là, il y a des banques qui ont misé là-dessus. C'est un peu, il y a un peu de business là-dedans. Hein. Il y a un risque qu'on prend, la banque le prend. Et je pense qu'il faudrait pas que ce soit la personne qui aille tous les torts sur ses épaules. Et je pense que c'est tout.
Non, parce que vous avez raison. On va décourager la prise de risque, puis on va décourager donc des entrepreneurs à s'essayer. Merci pour l'appel, Jean.
Mais Bernard, ça soulève un peu la question de la restriction de l'accès au crédit. C'est qu'à l'heure actuelle, c'est tellement facile, les taux d'intérêt sont tellement bas que les banques savent plus quoi faire pour en prêter plus, puis tout ça.
Non, puis tu sais, quand c'est Stéphanie qui nous disait dans les mois, ou enfin, pas longtemps après qu'elle ait fait faillite,
9 mois, tu recevais.
Elle recevait des propositions de cartes de crédit.
Ben on en reçoit constamment. De ça, tu dois en recevoir. Tu sais, si je me levais un matin, là, à chaque fois qu'il arrive une banque qui me dit « On a déjà réservé du crédit de temps pour vous, vous avez juste à signer là. » Ça arrive tout le temps, ça. Puis si je disais oui chaque fois, puis une bonne fois, je pars puis je dépense, là, je vais en faillite.
On s'entend. Sarah, bonjour. Vous êtes là, Sarah?
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, bonjour. Donc, comme tu expliquais, en fait, moi, je suis huissier de justice, donc je suis un peu entre l'arbre et l'écorce. Donc, on est sur le terrain, puis ça arrive en fait fréquemment que nous, on doit exécuter des jugements. Donc, à ce moment-là, on a des attentes de la part de notre créancier qui dit, bon, ben parfait, telle personne, on doit aller la saisir pour telle raison, elle doit des sous. Puis, on arrive au bout du compte, puisque la personne, elle nous propose ou elle nous donne ses papiers de faillite, de proposition et tout ça. Donc, à ce moment-là, on peut absolument rien faire. Là. Donc, on doit se revirer vers le client et dire, malheureusement, ton jugement, tu viens de le perdre, puis ton 7 000, 8 000 $ tu le verras jamais parce qu'il est rentré dans la faillite de débiteur. Là. Donc, c'est quand même, je dirais, moi, monnaie courante qu'on vit des situations comme ça. Puis, au même principe avec les entreprises, souvent les compagnies à numéro, donc des Québécois, on a des jugements qui sont contre ces compagnies-là, puis on se revient qu'on arrive finalement, la compagnie, elle a fermé, puis ils ont ouvert sous une autre compagnie, un autre numéro. Puis à ce moment-là, le jugement de monsieur, madame, tout le monde, là, il peut absolument rien faire parce que il est plus bon, en fait.
Ah, ça, je trouve ça très intéressant, Sarah. Donc, ce que vous nous dites, c'est que dans certains cas, il y a un créancier qui vous envoie collecter un client et le client répond, ben écoute, j'ai fait faillite.
Oui, c'est
fait
ça.
Puis là, je dois payer, mettons, je sais pas, moi, 5 cents dans la pièce, 10 cents dans la pièce, fait que Didi, que c'est ça qu'il va avoir selon le jugement. C'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. Puis même des fois, entre-temps, la personne, elle est pas en faillite, mais ben là, mon Dieu, je m'attendais pas à payer, exemple, un 10 000 $ de ce créancier-là. Ben, c'est pas plus compliqué, je m'en vais voir mon syndic de faillite, puis je vais faire faillite, puis à ce moment-là, on peut pas rien faire. Là, la faillite, elle rentre, le jugement, la créance rentre dans la faillite au même principe que les autres dettes, puis la dette est effacée, puis le client, il peut rien faire avec son jugement. Là. C'est sûr que par la suite, la personne doit, oui, payer sa faillite comme il se doit, mais en tant que tel, le créancier, lui, il va pas mettre des... c'est surtout quand je vous parle du créancier, si c'est monsieur, madame, tout le monde ou une petite compagnie, à ce moment-là, il dit, bon, ben écoute, j'aurais bien essayé, puis à ce moment-là, il peut rien faire avec son jugement.
Mais j'ajouterais que ce qui est très frustrant souvent pour les créanciers en question, c'est que les pensions ne sont pas saisissables, à ma connaissance, n'est-ce pas?
Alors,
il y a des gens qui, il n'y en a pas tant que ça, là, mais il y a des gens qui ont une bonne pension accumulée, qui font comme 85-90 000 $ par année, puis ils déclarent faillite. Puis tu peux pas saisir quoi que ce soit.
Mm-hmm, c'est ça. Puis au même principe qu'une personne qui est sur l'aide sociale aussi non plus. Là, le chèque d'aide sociale est pas saisissable. Donc à ce moment-là, moi, de la mère que je vous parle, ou du moins les dossiers les plus courants qu'on voit, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui ont obtenu un jugement, par exemple, de la Cour des petites créances, puis contre une compagnie, une PME, ou du moins contre un autre individu. Puis quand on arrive à ce moment-là pour faire la saisie des biens, ou du moins pour prendre une entente de paiement avec la personne, ben dis, non, je te paierai pas. Puis de toute manière, j'ai fait faillite. Puis en contactant le syndic de faillite, ou du moins le surintendant des faillites, il nous envoie en effet les avis de faillite. Puis la personne, elle a bel et bien fait faillite. Et souvent, on voit même le nom du créancier qui est rentré dans la faillite.
Donc, d'accord. À ce moment-là, merci Sarah, c'est très instructif, c'est intéressant Luc, parce que dans le fond elle dit dans certains cas, quand j'arrive avec le papier puis que le client voit le montant, c'est ce qu'il décide à aller déclarer faillite.
Hein,
c'est intéressant. Claude, en terminant, bonjour Claude.
Bonjour mon cher monsieur Drainville, comment?
Très bien, on vous écoute.
Oui, ben écoute, moi je suis contracteur, j'ai mon voisin d'en face, puis je n'aimerais pas de nom, là. Que lui, il nous a fait une petite dette de 26 000 $. OK. Il a fait faillite, parce qu'on était, j'étais pas tout seul, là, dans plusieurs endroits qui avaient de l'argent. Mais il a même passé à l'émission huissier. OK.
Okay.
On a reçu les papiers le lendemain, pas 6 mois plus tard, le lendemain. Il est arrivé chez eux avec une voiture flambant neuve, qui est rentré au concessionnaire, puis il l'a acheté, puis devine quoi? Il l'a payé cash. On a les preuves que le monsieur, il a tout vendu parce qu'il a annoncé ses entreprises à vendre, puis il se vantait en disant, après avoir vendu ma compagnie, puis là, je fais plus d'argent, il a mis ses employés là-dedans, il a tout garaché là-dedans, puis le lendemain, il a acheté une voiture flambant neuve.
Mais c'est comme, je comprends pas comment c'est faisable, mais j'imagine que ça doit l'être, vous croyez?
Ben, regardez, moi, mettons, je veux pas dire moi, mais je veux pas tirer le mal là. Vous vendez tous vos biens, l'argent que vous faites, vous la prenez, vous la serrez, vous le transférez dans le compte de vos enfants.
Oui.
Quand le syndic vous demande, t'as-tu de l'argent, il montre le compte de banque, il dit, regarde, j'ai pas de maudite scène.
Ouais.
Ben, l'argent est rendu dans le compte de banque de la petite, ou est rendu dans le compte de banque de sa femme, ou son frère, n'importe où.
C'est assez facile pour des autorités. C'est assez facile pour des autorités de vérifier ça, non?
On a appelé le syndic, et le syndic a dit, oui, il a fait faillite, mais malheureusement, on n'a pas de preuves. On a envoyé toutes les preuves, parce qu'on est plusieurs créanciers qui se connaissent, puis on s'est tous parlé. On a envoyé les preuves au syndic, puis le syndic, bien, il a le droit de faire ça.
Il vous a répondu, Claude?
Oui, il a le droit de faire ça. Fait qu'il dit, quand il va arriver à son fameux 9 mois de libération, on peut contester la libération. Mais lui, il a fait faillite commerciale et personnelle. Et le lendemain matin, quand tu rentres au concessionnaire, le temps que les documents se rendent au bureau des faillis ou dans le bureau de crédit, l'inscription se fait entre 30 et 45 jours. Fait que quand tu rentres au bureau qui est au concessionnaire, s'acheter une auto qui a payé comptant, oui. Ça paraît pas que tu as fait faillite.
OK. Fait qu'il vous devait 26 000 $ à vous, puis il devait des montants à d'autres contracteurs.
Il a fait une faillite de 265 000.
Ça vous a pas tenté d'aller le voir puis de dire j'ai vérifié, ton char, il vaut 35 000 $ ça vaut plus que l'argent que tu me devais, mon bonhomme, non?
Ben, écoute, honnêtement.
Bernard, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même.
Non, j'ai pas parlé de justice.
Regardez, monsieur Drainville, nous, on y a envoyé une mise en demeure, ce monsieur-là, au mois de septembre 2019. OK? À partir du mois de septembre 2019, le monsieur a fait des menaces de mort. Il a menacé ma femme, mes enfants, des insultes à continuelles. On a 3 rapports de police.
Avez-vous des relations de bon voisinage avec lui? Vous dites que c'est votre voisin.
Je lui parle plus.
J'imagine.
Non, mais là, des menaces de mort, là, on est dans un autre... Là, c'est criminel.
Là, c'est criminel, en plus.
Et heureusement, ça va se régler cette semaine. Parce que le monsieur a porté... il a dit qu'on faisait pousser de la drogue chez nous. Il a fait plein de fausses accusations. Il n'y a pas d'allure. Et les policiers, heureusement, ils ont transféré ça au district attorney. En français, c'est... Procureur de la Couronne. Ouais. Et lui, m'a félicité combien j'ai été patient. Et mes enfants m'ont traité de pissou parce que j'avais pas traversé au bord de la rue et j'avais pas sacré mon pantalon.
Vous voyez, c'est ça.
Mais voilà, Claude, mais qu'est-ce qui est plus intelligent? Aller avec la loi ou sacrer un point sérieux?
Claude, je vous félicite. Je vous félicite pour votre sagesse. Puis voyez, la patience dans votre cas, à tout le moins, c'est pas toujours le cas, mais dans votre cas, semble payante.
C'est ça, mais on a tout perdu, puis comme je vous dis, on est 2 voisins sur la rue qui doivent de l'argent. Moi, l'autre voisin, c'est pas un gros montant, là. Mais on est tous crampés de rire, puis on dit « wow, monsieur, il est pas payé ». Honnêtement, moi, on va faire faillite demain matin, puis on va aller me chercher d'autres véhicules flambant en une main. Oui, je comprends qu'il y a des personnes qui n'ont pas le choix. Comme vous avez expliqué tantôt, il y a des bad luck qui arrivent dans la vie. Un accident de travail, la personne tombe sur le CSST, je ne sais pas, là, un imprévu, ça arrive à tout le monde. Oui. Mais quand tu fais faillite, puis que le lendemain matin, tu rentres au concessionnaire, tu achètes un char avec un chèque flambant en nœud, puis tu te promènes avec ton char flambant en nœud, puis tu pètes les bretelles à tes anciens employés.
On appelle ça de l'arrogance, on appelle ça...
Ben écoute, il y a des ces anciens employés, il y en a qui travaillent pour moi, puis ils ont embarqué dans la faillite parce qu'ils lui devaient comme 6-7 000 pièces de salaire avec des heures en banque, tout ça. Puis t'arrives au bout de la ligne, tu t'aperçois que le gars, il se pète les bretelles, puis il lui envoie des textes en lui disant « Gars, je fais plus d'argent qu'avant, puis vous ne serez jamais payé, je vous l'avais dit. » Ça, je pense que le gouvernement ou les syndics devraient avoir le droit de faire plus de recherches. Et, attends une minute, mon bozo, là, tu montes ton compte de banque qui est à zéro, là, ben montre-moi donc le compte de banque de ta femme, de tes enfants. Comment ça que ton enfant de 10 ans est rendu avec un compte de banque de 125 000 dedans?
D'accord. Ouais, d'accord,
de toute façon, on pourrait qualifier ce gars-là tout simplement, comme on dit au Québec, des cœurs. Hein?
Ouais. Moi, j'ai un autre mot, là. Ça commence par C, puis ça finit par R.
Je l'avais compris aussi, Bernard, mais j'ose pas.
OK, merci, Claude, pour l'appel. Luc, on va s'arrêter.
OK.
Au retour, on va parler... Écoute, j'allais dire de la guerre du Vietnam, parce que, honnêtement, ce que tu vas nous apprendre sur la guerre en Afghanistan, ça ressemble drôlement aux leçons que les Américains n'ont visiblement pas retenues de la guerre du Vietnam, mais c'est bien de la guerre en Afghanistan, les cacheteries, les mensonges, la manipulation, tout ça après la pause.